La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not bla bla bla. Bla bla bla.
Bonjour et bienvenue dans les décroissants tout chauds. Bonjour Lola.
Bonjour.
Aujourd'hui nous nous intéressons au plastique et à la pollution qu'il engendre malheureusement. Sur le sujet, nous avons dégoté un livre à la médiathèque Vaillant, un livre de Mathieu Combes, publié aux éditions Rue de l'Échiquier en 2019, et qui a pour titre « Survivre au péril plastique, des solutions à tous les niveaux ». Mathieu Combes est ingénieur chimiste de formation. Il est le fondateur de naturascience.com, un magazine en ligne consacré aux questions d'environnement. Je vous lis l'introduction de ce livre. Aidé par notre amie Lola. Allons-y. Le plastique a participé à l'essor du monde moderne et transformé nos modes de consommation. Il est devenu indispensable à nos sociétés, a réussi à s'immiscer partout dans notre vie. Dès notre plus tendre enfance, nous baignons dans le plastique.
Il constitue d'abord nos biberons, nos tétines, nos hochets et nos peluches.
Puis il donne vie à nos jouets préférés.
Les Lego, les Playmobil, les poupées Barbie.
Ils composent nos feutres, nos règles et nos premiers stylos. Nous apprenons doucement à l'aimer à mesure que nous grandissons en sa compagnie. Nos habits de bébé sont en coton pour respecter notre peau fragile, mais nous finissons en un rien de temps habillés en plastique, de la tête aux pieds.
Nos chaussettes, chaussures, pantalons, jupes ou robes, sous-vêtements, chemises, t-shirts et pulls sont désormais en grande majorité fabriqués en textile synthétique, donc en plastique.
Éléments de base de nos brosses à dents, peignes, emballages cosmétiques, gel douche et shampoing, ils nous aident à rester propres. Une fois adultes, nous le retrouvons très vite dans notre téléphone et notre voiture. Il est également présent chez nous, dans nos meubles, notre électroménager et nos emballages. Même lorsqu'il ne se voit pas, il est là. Dans les murs de notre logement, il isole du froid ou de la chaleur et protège les fils électriques. Matériau de base des canalisations, il transporte nos eaux usées. C'est encore lui qui filtre les contaminants des cigarettes des fumeurs. Et dans les pires moments de notre vie, à l'hôpital, il sert aux transfusions et accompagne la guérison. Il est aussi là dans les meilleurs moments, lors des buffets et des soirées. Les utilisations du plastique sont désormais infinies. L'industrie s'est emparée du plastique dans les années 1950. En une dizaine d'années, il a gagné tous les pans de la consommation. Depuis, sa production est exponentielle. Seules 2 millions de tonnes étaient produites en 1950.
Nous en produisons désormais plus de 350 millions par an.
Ce matériau s'est ainsi imposé comme une référence sur différents marchés et sa percée a entraîné une révolution sans précédent. Fini les contenants et objets réutilisables, nous sommes passés à l'ère du jetable. Bouteilles, gobelets et barquettes à usage unique sont le lot quotidien du consommateur nomade et pressé. Stylos, rasoirs et briquets sont jetés après utilisation et immédiatement remplacés. Dans leur grande majorité, les emballages ne sont utilisés qu'une seule fois avant de rejoindre la poubelle, moins d'un an après leur fabrication. Il s'agit là d'un véritable gâchis. Rappelons-nous que le plastique peut durer bien plus longtemps, comme le montre son emploi dans le monde des transports et dans le monde du bâtiment. Habilement utilisé et installé, le plastique peut tenir plus de 50 ans. Cette histoire d'amour aurait pu continuer longtemps sans accroc. Mais une chose n'a pas été prévue ou a été volontairement passée sous silence. La qualité principale du plastique constitue son principal défaut.
Le plastique, grâce à sa robustesse et à sa légèreté, a remplacé des matériaux plus traditionnels comme les bois, les métaux, la céramique et le verre.
La modernité a agi comme un roi Midas un peu particulier qui, plutôt que de tout changer en or, se serait amusé à tout changer en plastique. Celui-ci semble être un matériau sans valeur marchande et dans la plupart des pays, il n'est majoritairement pas recyclé. Il se voit laissé à l'abandon dans des décharges sauvages ou à ciel ouvert. Les industriels, fous de joie d'avoir trouvé une matière façonnable à l'envi, se sont concentrés sur la production, sans se soucier de ce qu'il adviendrait des rebuts. En ville, comme à la campagne, dans les caniveaux, au bord des routes, sur les rives, à la plage, à la montagne, le plastique jonche le sol, flotte ou coule au fil de l'eau. Il est aussi charrié par les pluies ou le vent. Ces déchets rejoignent trop souvent une rivière ou les réseaux d'eau pluviale. Ils ne sont pas toujours arrêtés en station d'épuration et finissent leur course dans les mers et les océans. Ainsi, les espaces maritimes du monde entier sont littéralement infestés par cette pollution aux déchets plastiques qui ignore les frontières nationales. Les nombreux détritus et autres montagnes de poubelles présents sur bien des littoraux témoignent de l'ampleur des dégâts causés par l'incapacité de l'homme à maîtriser ce nouveau matériau. Et nous sommes désormais aveuglés, fascinés, effrayés par la pollution qu'il génère dans les océans, dans les eaux, sur terre et dans l'air. Si fantastique dans les années 1960, il apparaît désormais comme l'ennemi public numéro un.
Nous le retrouvons jusque dans les endroits les plus reculés du globe, comme les pôles, les îles, les plus hautes cimes et les fosses océaniques. Notre ancien meilleur ami distille des fibres et des microplastiques jusque dans les abysses et les glaces de l'Arctique.
Il contamine les espèces aquatiques, les oiseaux et toutes sortes d'animaux sur la terre ferme. Inexorablement, il se retrouve dans nos assiettes, dans les fruits de mer,
les poissons
et beaucoup d'autres aliments. L'industrie agroalimentaire utilise du plastique dans tous ses procédés et la restauration y a recours pour stocker ou chauffer de nombreux aliments. Au bout du compte, on en trouve dans un simple verre d'eau, dans le miel, dans la bière, dans l'air de nos maisons
et même dans la poussière.
Nous mangeons et respirons des microplastiques et des perturbateurs endocriniens tout au long de la journée. Depuis quelques années, les scientifiques du monde entier se penchent sur ces particules invisibles à l'œil nu. La question de la pollution plastique est le plus souvent cantonnée à ces stupéfiants continents de déchets qui s'accumulent en mer, mais beaucoup moins, et à tort, aux détritus qui se retrouvent partout dans les décharges et contaminent les sols. Et nous ignorons les fibres présentes dans l'air que nous respirons, dans les poussières de nos maisons, dans l'eau que nous buvons et dans les plats que nous mangeons. Celles-ci nous entourent constamment et peuvent sans doute avoir un impact sur notre santé. Le développement des maladies respiratoires et des cancers au cours des 50 dernières années, bien que n'étant pas officiellement imputable au plastique et à ses effets, nous donne le droit de nous interroger et aussi de tout mettre en place pour nous protéger. Nous avons toutes les clés en main pour lutter contre ces pollutions. Il faut simplement savoir comment mettre en œuvre et déployer au mieux ces solutions.
Partons d'une question simple et capitale. Quels sont les risques que fait courir cette pollution ?
Ils sont d'abord mécaniques, chimiques et bactériologiques. Les plus grands animaux se retrouvent avec l'estomac rempli de plastique, enchevêtrés dans des filets de pêche. Les plus petits sont étranglés ou étouffés par toutes sortes de déchets. Tous se retrouvent avec des additifs et des polluants dans leur graisse. Les plastiques flottants sont colonisés par les bactéries et menacent l'équilibre aquatique. Chez l'homme, les effets les plus visibles sont observés dans les pays où les plastiques sont brûlés à l'air libre. Ils provoquent alors maux de tête, diarrhée et vomissements. Les effets les plus pernicieux sont liés aux perturbateurs endocriniens relâchés par les plastiques et qui interfèrent avec notre fonctionnement hormonal. Sur le long terme, ils entraînent nombre d'effets délétères, perturbent notre capacité reproductive et peuvent entraîner des malformations chez notre descendance. Plusieurs études sont en cours pour connaître les impacts des microplastiques et des nanoplastiques qui pourraient passer dans le sang.
Un café ? Un écroissant tout chaud ?
Vous êtes bien sur Radio B avec Gaëlle
et Lola.
Le tableau de la pollution des plastiques est sombre et la prise de conscience très récente. Et les acteurs n'ont de cesse de se renvoyer la balle. Pour les industriels, la pollution plastique est tout simplement due aux consommateurs qui jettent leurs déchets n'importe où. Les citoyens dénoncent à leur tour le manque de mise à disposition par les pouvoirs publics de poubelles et de dispositifs de collecte efficaces. Pour les militants, la responsabilité est à attribuer aux producteurs ou aux transformateurs de plastique. Pour ces derniers, elle revient à leurs donneurs d'ordre, les grandes marques de l'agroalimentaire, de l'automobile et de l'industrie cosmétique. Il y a aussi tous ceux auxquels les médias donnent rarement la parole et qui ont un avis intéressant à faire valoir. Ce sont les gestionnaires d'eau usée, qui accusent le manque de moyens pour moderniser leurs infrastructures et pour dépolluer les eaux pluviales qui charrient les déchets. Ce sont également les recycleurs, qui mettent en cause le manque de moyens pour améliorer la collecte, moderniser les centres de tri et créer de nouvelles filières. Et puis, il y a tous les autres, politiciens, maires, agriculteurs, pêcheurs, logisticiens et éboueurs.
La vérité est que tout le monde est fautif et que chacun, à sa manière, en n'appliquant pas les bons gestes, contribue à l'amplification du problème.
Soyons honnêtes. Un industriel peu regardant de ses rejets ou une ville qui ne dispose ni de réseau d'égout ni de système efficace de gestion des déchets auront forcément un impact beaucoup plus néfaste sur l'environnement qu'un citoyen qui jette quelques emballages dans la nature. Toutefois, le fait que ce soit pire ailleurs ne doit pas servir d'excuse à l'inaction. Trouvons notre rôle et agissons, comme dans une fourmilière, au service de la communauté. Chacun d'entre nous, qu'il se présente comme citoyen, producteur, industriel, acteur politique, chercheur, pêcheur ou encore agriculteur, peut agir à son échelle et à son rôle à tenir, aussi infime soit-il, dans l'amélioration de la situation. Face à la montée des mouvements anti-plastique, les industriels ont trouvé leur mot-clé, leur concept parade. Ils parlent d'économie circulaire à tout va pour verdir leurs pratiques. Le recyclage serait la solution pour que le plastique à usage unique ne pose plus de problème environnemental majeur. Pour les fabricants, il faudrait arrêter d'accuser un matériau qui a tant apporté au progrès. Ils veulent faire passer l'idée simple que si les citoyens et les entreprises mettaient leurs déchets en plastique dans la bonne poubelle, il serait possible de les recycler à grande échelle. En apprenant à connaître les différentes filières et les procédés de recyclage existants ou en développement, mais également les matériaux pour lesquels il n'existe aucune solution technique ou économiquement viable, nous verrons que même lorsqu'il est collecté, le plastique ne se recycle pas intégralement.
Il y a des pertes de matière le long de la chaîne de recyclage, même pour les plastiques qui se recyclent le mieux, comme celui des bouteilles.
Il est effectivement plus juste de parler des plastiques et non du plastique, tant les éléments dont il est question sont variés. Il existe une multiplicité de matières, de formats et d'étiquettes, ainsi qu'une panoplie de systèmes de collecte, de tri et de traitement. Tout cela freine d'ailleurs le développement d'une économie rentable du recyclage. Les innovations pour créer de réelles alternatives sont fragmentées et peinent à s'imposer. Cependant, il existe un large éventail de solutions connues qu'il convient de mettre en place. La nécessité de mener une action commune et solidaire est impérieuse, car sans cela, la faute sera perpétuellement renvoyée sur les autres, ce qui serait aussi facile qu'inefficace et dangereux. Pour ma part, j'ai pris conscience, lors de différents voyages, notamment au Maroc, au Sri Lanka et à Cuba, des ravages que peut causer la pollution plastique.
Dans ces pays, le plastique est partout. Dans les villes ou à la campagne, il pollue les sols, s'amoncelle sur les bas-côtés, dans les champs et sur les plages.
Plus près de chez nous, les touristes ont pris l'habitude de nager au milieu de fragments et de sacs plastiques dans la mer Méditerranée. Comment en est-on arrivé là ? Comment mettre fin à toute cette pollution que l'on observe s'accumuler sans réagir ? C'est ce que j'ai cherché à comprendre. Et pour cela, il ne fallait pas aller à l'encontre des industriels, mais s'intéresser à leur mode de fonctionnement. Je les ai donc contactés pour visiter leurs usines, leurs centres de recherche, de tri et de recyclage. Je me suis rendue dans des stations d'épuration, des centres de pilotage d'eau usée et des bassins de rétention. J'ai également pu rencontrer les grandes têtes pensantes du recyclage en France. Des navigateurs et porteurs de projets, des inventeurs qui proposent des solutions innovantes ou des start-up qui cherchent à révolutionner le recyclage et les matières plastiques. Ce livre, est une invitation à la découverte du monde des plastiques en France, en Europe et dans le monde. La première partie se consacre à la description précise des impacts de la pollution plastique sous tous ses aspects, sur les animaux, sur l'homme, la pollution en mer, sur terre et dans l'air, le problème des perturbateurs endocriniens. La seconde partie est consacrée aux solutions à la pollution plastique. Nous commencerons par les projets de nettoyage en mer ou sur terre. Malgré la qualité de ces projets, ils ne peuvent à eux seuls constituer une réponse globale, car les véritables solutions sont celles visant à arrêter le plastique à la source. Nous explorerons ainsi le rôle des réglementations, des entreprises, des gestionnaires d'eau et de déchets, des pêcheurs, des agriculteurs, des industriels et des citoyens pour mettre fin à ces rejets. Puis nous nous pencherons sur le recyclage et sur les différentes formes de valorisation des plastiques. Le dernier chapitre propose de repenser complètement l'économie des plastiques, leur fabrication et leur utilisation pour mettre fin, une fois pour toutes,
à l'usage unique.
Nous écoutons Trio, l'ère du plastique.
J'ai vu des arbres de plastique dans des déserts inhabités, mélangés à l'organique, sur le rebord des voies ferrées, envahissant tout un village, drapeaux aux mille couleurs, la caissière vous noie au passage. Prenez-en ces de bon cœur, de bon cœur. Quand c'est l'air du plastique qui soudain s'en va en fumée, la mélodie la plus toxique que l'homme aurait pu inventer. Cendres noires dans le ciel retrouveront leur paysage. La musique est partout la même. Cette terre est juste de passage pour flatter votre ego de passage. Regardez l'air du plastique se mélanger à l'harmonie.
Elle est sublime cette musique, nos enfants la danseront aussi.
S'envole l'air du plastique et s'oublie cette mélodie. Elle est superbe,
elle est cynique
et tellement plus économique.
Nous parlons surtout de la pollution causée par le plastique, mais un peu moins sur son histoire. La voici. Tout a commencé en 1838, lorsqu'Henri Reinhold a synthétisé pour la première fois du PVC, mais cette découverte resta sans suite. C'est en 1869 que les frères Yatt ont mis au point le celluloïde, qui est aujourd'hui considéré comme la première matière plastique artificielle. En 1889, Jean-Jacques Tria obtient la galalite en durcissant la caséine du lait. Léo H. Baekeland découvrit la bakélite en 1907 et le cellophane en 1908. Et en 1930, le polystyrène fut inventé. Pour ceux qui se le demandent, le PVC est de la polychlorure de vinyle. C'est le plastique le plus utilisé car il est stable, inerte et flexible.
Merci Lola. Je vous rappelle le titre du livre de Mathieu Combes, « Survivre au péril plastique, des solutions à tous les niveaux », disponible à la médiathèque Vaillant. Et je vous dis à bientôt, nous vous retrouvons le mois prochain. D'ici là, bien sûr, si vous en avez envie, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Radio B. Les décroissants tout chauds vous saluent bien. Ciao les escargots et ciao Gudule.
Et à très bientôt sur Radio B.
La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not blah blah blah. Blah blah.